Bonjour à tous, l'actualité des Alpes du Sud à la mi-journée en ce lundi 16 janvier 2017, les titres. Les Républicains ont choisi leur candidat pour les élections législatives. La Commission nationale d'investiture a pris ses décisions ce samedi et elle provoque un peu de remous dans les Alpes du Sud. Le Parc national des Écrins compte sur ses bénévoles, 25 scientifiques bénévoles qui se réunissent au sein d'un conseil scientifique. La 100e réunion s'est déroulée ce vendredi. L'EME a réaménagé son célèbre chemin des pénitents, 180 000 euros de travaux pour sécuriser un site très prisé par les touristes. Et puis bien sûr, les résultats sportifs du week-end, c'est en fin de journal avec Romaric Ponce. Et on débute avec les élections législatives 2017. Les Républicains ont investi leurs candidats ce week-end. On connaît donc ceux dans les Alpes du Sud pour juin prochain, avec dans 4 circonscriptions, une qui est réservée à l'UDI, quand dans une autre, on connaît la désunion et une candidature dissidente. Un week-end mouvementé donc, Alex Cam.
Et qui a dit que tout se passerait dans l'union et dans un climat pacifié pour la désignation des candidats aux législatives dans les Alpes du Sud? Eh bien pas la droite républicaine des Alpes d'Haute-Provence en tout cas, renouant avec ses vieux démons post-sénatorial dans le rythme de la désunion et des désaccords. Deux circonscriptions et un candidat investi. Ainsi, dans la première, tenue encore à 7h par le socialiste Gilbert Sauvan, le choix des accords politiques a fait perdre l'investiture au maire de Colmar, Malgadis-Hurle, réservant le territoire à un candidat UDI. Un choix que souhaite faire basculer en la faveur du maire de Colmar lors des prochaines discussions le président du parti Sébastien Ginet, claquant au passage la porte au nez à un autre prétendant, Bruno Bourjac, qui pourrait partir en dissidence, éprouvant également au passage qu'entre le centre et les Républicains, rien n'est acquis dans le département. Dans la seconde circonscription, c'est une nouvelle victoire, au nez et à la barbe de ses nombreux opposants, pour le président du parti, déjà investi en juin 2016. Sébastien Ginet, conforté dans sa candidature, mais voilà que le maire de Corbière et conseiller départemental d'opposition, Jean-Claude Castel, ne voit pas l'issue de cette investiture du même œil, remettant en question les règles de son parti, dont il risque l'exclusion prochainement, déclarant « J'ai décidé d'entrer en résistance face à ce choix dicté par des politiciens qui ne se préoccupent pas de notre territoire ».
On a donc compris, Alex, que dans les Alpes de Haute-Provence, rien n'était acquis en termes de victoire pour les Républicains. Mais qu'en est-il dans les Hautes-Alpes ?
Eh bien là, on pourrait dire que dans le département, on a remis les compteurs à zéro pour remettre tout le monde d'accord, ou presque. En effet, sur la première circonscription tenue par la socialiste sortante Karine Berger, Corinne Chanfray, dont la pré-campagne n'a pas su créer l'unité, se voit désavouée à la faveur de la conseillère municipale de Gap et filloniste historique Catherine Assaut. De quoi envisager l'union de la droite en vue des législatives. Donc, quant à la seconde circonscription, le président du parti et conseiller départemental Arnaud Murgia se voit conforté pour mener campagne face notamment au sortant Joël Giraud. Mais, car il y a un mais, celui de l'indécise Chantal Emehoud, vice-présidente UDI de la région PACA, et qui malgré cette annonce ne se déclare toujours pas comme soutien officiel pour la campagne d'Arnaud Murgia. En effet, selon le maire d'Embrun, toujours officiellement candidate investie par l'UDI, chaque parti investit les siens et ensuite l'UDI et les Républicains discuteront sur les circonscriptions. Et de ce point de vue, la direction de les Républicains envisage aussi le cas de circonscription où seraient présents à la fois un candidat LR et un candidat UDI. Est-ce que cela serait un drame s'il y avait une primaire dans certaines circonscriptions? Quand on a deux bons candidats potentiels, s'interroge un proche de François Fillon. Ainsi, dans son esprit, cette primaire serait en fait le premier tour des législatives qui permettrait de départager les deux prétendants. Mais ça, Arnaud Murgia n'y croit pas et prévoit toujours que la présidente de l'UDI dans les Hautes-Alpes rejoindra sa campagne prochainement. Ce à quoi répond Chantal Emehoud quant à sa décision définitive, rien de presse.
Merci Alex, un dossier bien sûr à retrouver en détail sur alpe1.com. La 100e séance du conseil scientifique du Parc national des Écrins s'est tenue vendredi, composée de 25 scientifiques bénévoles. Il aiguille le parc et ses dirigeants sur les politiques à mettre en œuvre, sur l'inventaire et le suivi des espèces, sur la charte, sur les aménagements ou encore sur les recherches. Un conseil scientifique sollicité pour ses compétences et connaissances dans le patrimoine culturel et naturel du Parc national des Écrins. Le responsable de ce conseil est Richard Bonnet.
Ce sont des scientifiques qui sont là pour accompagner le parc national et répondre à des questions qui sont liées à la gestion globale du parc, gestion conservatoire des espèces, mais ça peut être aussi les paysages, les patrimoines culturels dans leur acceptation la plus large. Il faut savoir que c'est une institution ancienne puisqu'elle date depuis 1977 au sein du parc. La majorité sont consultatifs, mais certains avis sont, depuis la loi de 2006, certains avis sont conformes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires pour réaliser certaines actions en cœur de parc. Tout ce qui est aménagement en cœur de parc, des restaurations, des travaux ou autres, le conseil scientifique donne des avis. Lorsqu'il va y avoir des activités sportives en cœur de parc, il y a des autorisations à délivrer, le conseil, pareil, donne des avis. Et donc, il y a tout un domaine qui est très bien spécifié de par la loi, où le conseil donne des avis consultatifs à ce niveau-là.
Un conseil scientifique au sein du parc national des Écrins, qui se réunit en moyenne 3 fois par an. Il est présidé par Marie-Hélène Curveillé, la directrice de l'IRSTEA. Tourisme et patrimoine avec le sentier des pénitents au Mai, qui est classé espace naturel sensible. De nombreux aménagements ont été nécessaires et réalisés pour 180 000 euros à la fin de l'année 2016. Il s'agit notamment d'aménagements de sécurité. Le site qui a rouvert au public au tout début de l'année. Écoutez le maire des Mai, Gérard Paul.
C'est pour nous une opportunité très importante de mettre en valeur à la fois ce site géologique, son environnement et puis donc de développer le tourisme autour d'une éco-balade. Le site a été retenu dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Alcotra et qui va nous permettre de mettre en place un projet qui s'appelle l'aventure géologique et pour lequel on va pouvoir mettre en place toute une série d'opérations liant à promouvoir nos sites et le préserver, et d'autre part, ce soit un atout pour le développement touristique du département.
Des propos recueillis par Aurore Valori.
Alpe 1 Sport.
Les avis dissonnent au sein de la ville de Gap sur l'arrivée du rallye Monte Carlo. Alors qu'officiellement, la municipalité se dit fière d'accueillir une compétition automobile de niveau mondial, Stéphane Passeron, qui travaille pourtant à la direction des sports de la ville, n'hésite pas à dénoncer publiquement une telle organisation. En 10 points, dans un communiqué, il dénonce cette manifestation en totale contradiction avec les discours sur l'exemplarité en matière de protection de l'environnement, d'économie, d'énergie et de lutte contre le changement climatique. La sécurité routière est aussi mise à mal, selon lui, qui estime que le Monte Carlo promeut la vitesse. Par ailleurs, il regrette les nuisances en termes de bruit pour les populations, mais aussi pour la faune locale. Allez, on revient sur les résultats sportifs de ce week-end, c'est avec Romaric Ponce.
Le trophée Andros était de retour à Serre-Chevalier ce week-end. Après 9 années d'absence, la célèbre course sur glace a donc retrouvé son circuit d'origine. On notera la belle performance hier d'Olivier Panis, vainqueur de la super finale en Elite Pro, ainsi que de son fils Aurélien Panis, qui a signé lui un doublé samedi et dimanche en catégorie électrique. Parmi les pilotes, le nageur Camille Lacour était présent en catégorie électrique. Il était d'ailleurs ravi de son expérience au volant du bolide, écoutez-le.
Beaucoup de plaisir, donc après, voilà, on voit la vraie différence entre les pilotes qui conduisent toute la saison et nous qui faisons une ou deux courses, donc on fait pas le même job, mais en tout cas, on sort chaque fois de nos sessions avec le smile, un peu de frustration, mais beaucoup de plaisir. C'est assez étrange de devoir tourner les roues dans l'autre sens quand on est dans un virage, enfin, c'est un concept quand même de conduire sur glace.
Le nageur Camille Lacour donc sur le trophée Andros à Serre-Chevalier ce week-end. Week-end fast pour le hockey haut alpin après le carton des Rapaces vendredi soir en Ligue Magnus, vainqueur 9-3 de Chamonix-Morzine. Bien, ce sont les Diables Rouges qui se sont imposés samedi soir 5-0 face au Drakkar de Caen. Les résultats du trail et des volailles, c'est super dévolu. Alexis Arvin Béraud et Gwenaël Traube pour le GH2A se sont imposés. Un mot sur nos clubs de rugby maintenant. 3 matchs, 3 défaites. En honneur territorial, Sisteron s'est incliné 40-25. En première série Provence, Digne a encaissé un 29-0 contre Tarascon, et le 15 Gapensé, lui, a écopé d'un 46-0 face au RC Vauverdois. Enfin, on termine avec les scores de football. Dans le district des Alpes, Embrun l'a emporté 2-1 sur le Champsaur-Valgaudemars, score de parité de partout entre Fort-Calquier et Oraison. Les Mets ont dominé le Vivo 04 6-0. Sisteron est allé s'imposer 3-2 chez Vinon-Durance 3-2. C'était aussi le score final en faveur de Digne dimanche à domicile face à Manosque.
Merci Romaric.
Retrouvez et réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.